Alors aujourd'hui, je voudrais reprendre notre étude dans 1 Timothée chapitre 5. Et je sais que la dernière fois, nous avons touché un peu sur ces versets, mais puisque ça fait un peu de temps de cela, je voudrais reprendre et à partir du verset 17 et parler de ce que c'est pour des anciens de bien diriger l'assemblée. Il faut dire que Paul écrit à Timothée pour lui donner des instructions pour garder l'ordre dans l'assemblée. Et nous savons que ça ne prend pas beaucoup de temps pour que le désordre souvent rentre dans l'assemblée. Et il nous faut des hommes qui sont bien disposés, bien sûr par le Seigneur et par sa grâce, de pouvoir bien diriger l'assemblée. Et comme nous avons déjà vu dans nos études passées, qu'il y a deux sortes de fonctions de dirigeants dans l'assemblée. Il y a les anciens qui sont mentionnés ici dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Et puis, il y a aussi les diacres. Et nous avons déjà vu que il y a un peu de confusion à ce sujet, parce que souvent on imagine que le seul rôle du diacre, c'est de s'occuper des choses peut-être matérielles dans l'assemblée, les finances, ou bien préparer les éléments de la table du Seigneur, ou bien compter les offrandes. Ce sont des choses souvent qui sont données au diacre. Il faut dire, dans certaines assemblées, on ne parle même pas d'anciens, on parle seulement d'un comité de diacres, d'hommes qui supervisent les affaires de l'Église. Mais le mot diacre signifie en fait ministre, un ministre du Seigneur, un serviteur du Seigneur. Et il ne s'agit pas de s'occuper des affaires matérielles de l'assemblée, mais plutôt de prêcher l'évangile. Donc les prédicateurs dans l'assemblée qui prêchent fidèlement l'évangile et aussi qui sortent pour aller prêcher l'évangile ailleurs, comme des évangélistes, sont des diacres. Paul lui-même utilisait ce mot dans l'original, surtout le mot diacre vient du grec. Et ils ont simplement traduit ça tel que c'est dans le grec. Paul, en parlant de son ministère, le mot ministère vient du mot diacre. Alors Paul était un diacre du Seigneur. Son rôle n'était pas de rester dans une assemblée particulière et puis superviser ou bien diriger l'assemblée. Alors ce rôle est important. Et c'est ordonné du Seigneur. Je me considère moi-même comme un diacre dans notre assemblée ici. Je m'occupe de la prédication de l'Évangile, mais en même temps, j'ai des hommes qui servent dans la fonction d'anciens ou bien de responsables pour l'assemblée, pour les affaires de l'assemblée. Quand il y a des problèmes, comme on a vu dans Actes chapitre 6, lorsqu'il y avait des veuves qui n'étaient pas bien traitées, surtout parmi les Grecs, il semble que à l'époque, dans l'Église, c'était des veuves hébreux qui étaient favorisées. Alors, il fallait élire des hommes comme anciens pour s'occuper de ce problème-là, pour que les apôtres puissent donner eux-mêmes à la prédication de l'Évangile et ne pas passer le temps à servir les tables. C'était comme ça que c'est présenté dans Actes 6. Alors ça, c'est important que dans l'assemblée, il y ait des anciens qui puissent s'occuper des besoins de l'assemblée de cette manière, mais pour assurer que les diacres, les autres, ceux qui sont donnés à la prédication de l'Évangile puissent faire cela, prêcher l'Évangile. Alors, ici, dans notre chapitre, 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 17, nous avons des instructions particulières qui sont données pour ceux qui servent dans cette fonction d'ancien. Cela ne veut pas dire que l'ancien ne peut pas aussi prêcher l'Évangile. Les anciens dans mon assemblée, il y a des moments où, si je ne suis pas là pour prêcher, ils peuvent diriger l'assemblée, ils peuvent diriger le culte et aussi prêcher la parole. Ça, c'est important. Et c'est d'eux que Timothée parle ici dans 1 Timothée 5 et le verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Cela ne veut pas dire que nous sommes là pour élever les hommes, mais quand il s'agit digne d'un double honneur, il s'agit pas seulement dans le sens de respect, parce que s'ils sont en train de diriger bien, cela veut dire qu'ils dirigent selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autres règles de conduite, si ce n'est cette parole inspirée de Dieu. Donc, quelqu'un qui dirige bien selon la parole, que celui-là soit digne d'un double honneur. Et c'est écrit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je me souviens quand je suis venu au début ici à Shreveport et j'ai commencé à prêcher et le Seigneur depuis ce temps-là, a suscité d'autres hommes maintenant pour m'aider dans le ministère. Mais au début, je faisais tout. Alors, je devais trouver l'endroit où nous devions nous rassembler. Je devais payer le loyer. Je devais m'occuper des offrandes. Je faisais tout, visiter les membres et aussi prêcher. Alors, ça prend vraiment beaucoup de temps et il y a beaucoup de responsabilités en cela. Parce que s'il n'y a pas d'autre responsabilité que de préparer des messages et prêcher, même cela prend beaucoup de temps et ça demande vraiment la grâce du Seigneur. Alors, il y en a qui servent ce double rôle de prêcher, mais aussi de diriger l'assemblée. Et c'est de cela que Paul dit à Timothée que qu'il soit digne d'un double honneur. Ce n'est pas que nous sommes appelés à honorer des hommes, c'est le Seigneur qui doit être honoré, mais quand même dans le sens de prier pour cela, soutenir cela, et cela veut dire puisqu'ils sont des dirigeants, cela ne va pas dire que les membres peuvent simplement s'asseoir et observer, regarder pendant qu'ils travaillent. Non. Tous les membres font partie d'un corps. Et comme une main qui a besoin d'aide, l'autre main vient en aide de l'autre. C'est comme ça le corps physique agit et c'est comme ça le corps spirituel. Mais il y a toujours des hommes que le Seigneur a placés pour garder l'ordre dans l'assemblée. Il faut se rappeler que nous sommes des pécheurs et chaque fois que nous nous réunissons, même des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, quand même c'est toujours des pécheurs qui se réunissent. Alors ça demande vraiment la grâce de Dieu de diriger dans le cœur de chacun. Et parfois, il y a le désordre. Et pour cela, le Seigneur suscite des hommes qui sont convertis eux-mêmes et qui ont une bonne base fondée dans l'évangile de Christ. Il ne suffit pas que ce soit simplement quelqu'un qui a un certain talent de diriger dans le monde, mais un homme qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit de Christ en lui-même et qui a dans son cœur ce fardeau de diriger l'assemblée et de prêcher l'évangile pour que les yeux de chacun soient sur le Seigneur Jésus-Christ et sa mort accomplie pour les pécheurs et non pas les yeux fixés les uns sur les autres. C'est là où il y a des problèmes. Quand des gens commencent à regarder les uns vers les autres au lieu d'avoir des yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une responsabilité qui est vraiment importante dans l'Église. Et comme on va lire ici tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne faut pas imposer des mains ou bien sanctionner, si vous voulez, à n'importe qui. Il faut que ce soit des hommes que Dieu lui-même est en train de susciter. Alors, en ce qui concerne le double honneur, un, c'est de respecter les hommes qui ont une telle fonction, mais deuxièmement, comme on voit dans le verset 18, c'est de pourvoir à leurs besoins. Et il y a une illustration qui est donnée ici, car l'Écriture dit, tu n'en museleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Cette expression se trouve dans l'Ancien Testament, surtout dans Deutéronome chapitre 25 et le verset 4. C'était dans la loi de la manière qu'il fallait traiter des animaux qui aidaient dans la récolte. Et c'était une manière de, à l'époque, je ne sais pas si on voit ça aujourd'hui, ou pour fouler le grain, on utilisait des bœufs, mais comme c'est écrit là dans Deutéronome 25 et le verset 4, tu n'amuseras point le bœuf quand il fourrera le grain. Ils utilisaient les bœufs pour marcher sur le grain et séparer le grain pour préparer ça pour comme nourriture. Et un maître ne devait pas emmuseler le bœuf pour l'empêcher de manger pendant qu'il foulait. C'était ce que le bœuf méritait. Alors le point là, c'est que si tel est vrai pour le bœuf, ça devait être aussi vrai pour l'ouvrier, que l'ouvrier mérite son salaire. On ne travaille pas pour un salaire, mais si nous sommes dans le ministère, c'est anticipé que les membres de l'Assemblée vont quand même s'occuper de celui qui dirige bien et qui prêche l'Évangile. On ne peut pas exiger un salaire. Depuis que je suis venu ici à Shreveport, je n'ai jamais exigé un salaire. Au contraire, je travaille à temps plein pour ne pas être à la charge de notre Assemblée. Pourtant, l'Assemblée désirant me montrer leur amour et voulant aussi m'aider à pourvoir à mes besoins, me fournit avec un petit salaire. Et je dis petit, mais c'est exactement ce que le Seigneur lui-même ordonne pour que mes besoins soient, que l'Assemblée s'occupe de mes besoins personnel, mais en même temps, je travaille pour que je puisse aussi m'occuper de ma famille et éventuellement ma retraite, parce que chaque année qui passe, je vieillis comme d'autres et je ne voulais pas à la fin dépendre d'une assemblée pour ma retraite. Alors, ce sont des points que nous avons déjà touchés ici à Shreveport et je suis vraiment reconnaissant pour l'aide que l'Assemblée me donne. Mais selon Paul ici, tous ceux qui fonctionnent comme anciens, qui dirigent bien, non seulement dans la dirigeance, mais dans la prédication de l'Évangile, le double honneur, c'est non seulement le respect de ces hommes, de prier pour eux, de remercier le Seigneur pour eux, mais aussi de s'occuper de leurs besoins, selon ce que le Seigneur pourvoit. C'est comme ça qu'il a ordonné le soutien de ceux qui servent bien dans ce rôle. Alors pour cela, voilà le désordre dans le verset 19. Il se peut que parce qu'un homme prêche fidèlement l'évangile, il y ait des gens qui s'opposent. Et on peut entendre toutes sortes d'accusations à l'égard de certains. Alors c'est pourquoi Paul écrit à Timothée dans le verset 19, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. On peut entendre des choses, et peut-être c'est vrai, peut-être ce n'est pas vrai, mais il faut dire que quelqu'un qui sert dans cette fonction d'ancien, qui dirige l'assemblée, qui s'occupe des brebis du Seigneur, ils seront l'objet de l'attaque de l'ennemi. Et souvent, cette attaque peut surgir au milieu de l'assemblée elle-même, pas nécessairement du dehors. C'est possible. Alors, on ne doit pas être pressé à recevoir une telle accusation, mais toujours vérifier. Je crois que c'est le cas pour nous tous, surtout dans nos milieux où nous travaillons. Nous sommes au milieu de pécheurs, on entend beaucoup de choses. Si quelqu'un avec qui nous travaillons, nous sommes proches à cette personne et on entend des rumeurs à son égard, mais si nous avons l'amour pour un tel, on va toujours vérifier d'abord l'histoire et ne pas sauter là-dessus pour commencer maintenant ou bien ajouter notre accusation à celle des autres. On vérifie tout. Ça, c'est très important. Et donc, surtout à l'époque, il y avait pas mal de divisions, de conflits entre les membres juifs comme grec. Les gens qui entraient dans l'assemblée étaient de différentes cultures. Alors c'était facile pour certains d'accuser les autres des conflits personnels qui n'étaient pas du tout nécessairement spirituels. Et comme on sait, même dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il y avait des conflits au sujet des prédicateurs. Alors Paul devait écrire et à la base c'était la jalousie. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme quand l'un dit, moi je suis de Paul. Et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et puis Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors il peut y avoir des conflits parce que nous sommes des pécheurs et ça demande la grâce de Dieu de garder nos cœurs fixé sur Christ et Christ seul et non pas sur des hommes. Alors, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ouais, ça c'est biblique dans Deutéronome chapitre 19 et le verset 15. Et c'est dans la loi. La loi de Dieu a été donnée, bien sûr, pour montrer la sainteté de Dieu et la culpabilité de l'homme et de nous diriger à Christ, la seule justice de Dieu qui a accompli la loi, ça c'est sûr, mais il y a aussi des lois dans l'Ancien Testament qui sont là pour aider à garder l'ordre au milieu de l'Assemblée. Et ça c'est un tel cas aussi, Deutéronome 19 et le verset 15, c'est écrit, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Alors, dans chaque cas, s'il n'y a pas deux ou trois personnes qui peuvent affirmer l'accusation, donc on doit laisser tomber cette accusation, parce qu'il y a beaucoup qui peuvent individuellement provoquer des accusations contre un ancien simplement parce qu'il n'aime pas cette personne. Et je peux dire que à travers les années, il y a pas mal de gens qui sont fâchés contre moi, portaient des accusations contre moi parce qu'ils n'aiment pas le message de Christ que je prêche. Alors, ils sont ennemis de la croix et pour ça, ils sont devenus mes ennemis. Et je remercie le Seigneur que, quelles que soient leurs accusations, d'autres dans l'Assemblée n'ont pas accepté ces accusations parce que c'était un seul individu qui portait ces accusations. Et finalement, ces personnes-là sont sorties de l'Assemblée, ils sont allés ailleurs avec leur problème. Peut-être qu'ils continuent à parler ailleurs. Et il faut dire qu'à travers les années, à cause de l'Évangile, j'ai entendu pas mal d'accusations à mon égard. Les gens m'accusent d'être un diviseur et que, au lieu de porter la paix, je porte le conflit dans les assemblées. Il y a pas mal de choses que les gens peuvent dire, mais le vrai problème, au fond, c'est qu'ils sont rebelles à l'Évangile lui-même et rebelles à Christ, ennemis de Christ et du message de sa croix. Alors, il faut s'attendre à cela. Mais s'il y a des raisons pour accuser, je crois que ici, la parole est claire. Il faut deux ou trois témoins pour que cela soit affirmé. Là, on sait que ce n'est pas seulement un seul individu qui porte cette accusation, mais c'est peut-être une réalité qu'il faut maintenant vérifier. Puisque l'ancien qui dirige bien, il est responsable d'être un bon exemple devant l'Assemblée. Lui, surtout, il doit diriger l'Assemblée non seulement en parole, peut-être c'est un très bon prédicateur ou enseignant, mais aussi en comportement. La manière qu'il pratique l'Évangile, il faut que ça soit selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le verset 20, c'est écrit, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Il s'agit ici, alors, d'amener ça devant l'Assemblée. Et je dirais que ça, c'est toujours un exercice qui demande beaucoup de sagesse, surtout quand il s'agit d'amener ou bien de porter une accusation devant l'Assemblée. Je me rappelle au départ à Guéillot, à l'époque, il y avait un prédicateur que je formais. Alors, j'ai commencé à entendre pas mal de choses à son sujet. Et quand j'ai appris qu'il y avait plus de deux ou trois qui avaient le même fardeau en ce qui concerne ce dirigeant, j'ai dû apporter ça devant l'Assemblée. Et l'Assemblée a décidé, après un temps de prière et de vérifier toute la situation, de demander à celui-là de s'asseoir. On ne l'a pas exclu, mais on a demandé à ceux qui ne prêchent plus. Alors, de son côté, cela a commencé une vraie bataille contre moi, contre l'Église. Il a même emmené ça devant le sous-préfet. Il a porté pas mal d'accusations contre l'Église, contre moi. Il habitait une maison qui était tout juste à côté du lieu de culte. On avait construit une cour là où il y avait le lieu de culte et puis une maison pour le pasteur et sa famille. Alors il a refusé même de sortir de cette maison. Et je dirais pendant 5 ans, il était là. On venait pour se réunir, il était à côté, il faisait du bruit, il avait son vélo, les enfants criaient, mais il n'assistait plus avec nous. Puis un jour, je suis arrivé pour faire un cours de formation avec les prédicateurs et j'ai vu que la maison était vide. Alors j'ai commencé à demander à côté pour savoir ce qui s'est passé et il a été frappé d'une crise et qui l'a paralysé. Et c'est par là que le Seigneur l'a enlevé de ce monde. Alors c'était vraiment triste, mais c'était nécessaire pour que l'Église continue à croître dans la grâce sous la dirigeance d'autres anciens ou prédicateurs fidèles. Je ne sais plus le cas de cette assemblée aujourd'hui. J'ai appris qu'il y a un qui dirige l'assemblée maintenant, qui était un homme qui venait assister à l'époque. Mais de toutes les façons, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et ceux qui pêchent, donc ça démontre que puisqu'un homme est un ancien, un dirigeant, cela ne signifie pas qu'il n'est plus pécheur. Nous sommes des pécheurs comme les autres et nous avons besoin que la grâce de Dieu nous garde. J'ai autant besoin de Christ comme avocat que quiconque. Moi-même, il ne faut pas dire que, puisque ça fait des années maintenant que je suis converti et que je sers le Seigneur, que je suis au-dessus du péché. Non, je vis avec un cœur pécheur chaque jour. C'est mon cas. Alors, je demande au Seigneur de me garder. Je demande à ceux de mon assemblée de prier pour moi, de me garder, parce que je reconnais que je peux être, comme tout autre, tombé dans le péché et être dans le besoin d'être repris. Le mot là signifie pas dans la colère, mais reprendre comme on reprend un membre de nos familles, avec une exhortation selon la parole de Dieu, dans le but que le Seigneur donne la repentance à chacun de nous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. J'entends certains qui sont dans des positions de diligence, que lorsqu'on veut adresser une faute, ils se fâchent. Ils disent, mais vous ne savez pas que c'est moi le pasteur. Qui êtes-vous maintenant de venir me parler de cette manière? Mais si quelqu'un est vraiment du Seigneur et la grâce de Dieu est en lui, c'est comme David, lorsqu'il a péché et il a caché le péché et puis le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour lui parler de ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il s'est repenti. Et c'est la repentance que le Seigneur lui-même donne. C'est pour moi la preuve que quelqu'un est vraiment l'objet de la grâce de Dieu, puisque la repentance est toujours le fruit de cette grâce. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 18, et dans le verset 15, nous avons des instructions ici au sujet de la discipline, que ce soit d'un membre de l'assemblée, dans l'Assemblée, ou même un ancien, un dirigeant. C'est écrit ici, ton frère a péché, va et reprends-le. C'est le même mot que nous avons ici dans 1 Timothée 5, le verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ici, c'est devant tous parce qu'il c'est un responsable de l'Église, mais toujours sur la base de deux ou de trois témoins. Alors, ça ne doit pas être fait avec précipitation. Mais ici, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je crois que c'est toujours de cette manière que ça commence. J'ai un fardeau, j'ai appris quelque chose, j'ai observé quelque chose qui me trouble. Alors, au lieu de courir et commencer à parler à d'autres, à cela, je vais m'adresser, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Je vais m'adresser à cette personne particulièrement. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Écouter dans le sens que même cette personne que tu accuses d'avoir péché, si la grâce de Dieu en lui, ça va l'amener à la repentance. Et il va te dire, merci frère d'avoir eu le souci de venir me voir. Et je te demande de prier pour moi, puisque oui, c'est vrai, j'ai péché contre toi. Mais c'est écrit dans le verset 16, s'il ne t'écoute pas, reprends ou bien prends avec toi, voilà, une ou deux personnes. Donc c'est toujours dans le même contexte de 1 Timothée 5, 19, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ça, c'est biblique. Ouais. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Là encore, le but d'aller une deuxième fois vers une telle personne, ce n'est pas avec un esprit de condamnation ou de colère. Tout cela, ce sont des sentiments de la chair, mais plutôt comme c'est écrit dans Galates, chapitre 6, et le verset 1 et 2, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, voilà encore, redressez-le. C'est dans le même contexte de reprends-le avec un esprit de douceur. Cet esprit de grâce, reconnaissant que je suis aussi un pécheur, alors c'est pourquoi je viens vers toi pour te parler de ce que je vois comme un péché en toi. Prends garde, Galates 6, verset 1, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Il faut se rappeler que lorsqu'on parle de n'importe quel sujet, ça suscite en nous les mêmes sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé dans l'adultère. Alors je vais vers celui-là pour adresser ce péché, mais il faut reconnaître que moi aussi, dans mon cœur, je suis un homme. J'ai les mêmes tentations. Ou bien peut-être c'est au sujet de maltraiter quelqu'un, dans la jalousie, convoitise, quel que soit la situation. Je ne peux jamais parler à quelqu'un d'autre au sujet de son péché sans me rendre compte que j'ai autant de ce même péché en moi-même, dans mon cœur. Et j'ai autant besoin de la grâce de Dieu que celui-là. Alors c'est pourquoi dans le verset 2 de Galates 6, c'est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Notez la loi de Christ. La loi de Moïse ne faisait que condamner parce que ça exigeait un comportement parfait, sans péché. Ouais. Mais la loi de Christ nous dit que Christ a satisfait tout ce qui concerne notre péché dans sa mort à la croix. Alors, c'est à cause de sa mort que nous sommes déjà justifiés devant Dieu. Alors, il ne reste que pour Dieu de nous aimer dans sa grâce, puisque la mort de Christ a tout payé. Alors, si telle est ma relation avec Dieu en Christ, il me reçoit comme un fils déjà pardonné. C'est de cette manière, quand on va vers un frère, un autre, pour qui Christ est mort, ça doit être toujours dans l'amour. Ça, c'est la loi de Christ. Et comme Christ a porté notre fardeau, cela veut dire qu'il a porté notre péché jusqu'à la mort, nous devons aussi porter les fardeaux les uns des autres. Cela veut dire supporter. Et prier les uns pour les autres dans l'amour, sachant que un tel, si c'est un frère, Christ a déjà payé sa dette. Alors c'est dans cet esprit que c'est écrit dans Matthieu 18 et le verset 16, si ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, mais toujours dans le même but, de redresser celui-là, pas condamner, mais redresser. Mais c'est écrit dans le verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Alors, je peux dire que ça peut être le même cas avec un dirigeant, un ancien ou un diacre dans l'Assemblée. Il ne suffit pas de dire non, mais il semble que l'accusation est vraie, mais puisque c'est un dirigeant respecté, on ne doit pas emmener ça devant l'Église. Non, s'il ne t'écoute pas, et c'est évident qu'il a péché, surtout pour ceux qui dévient de l'Évangile, peut-être c'est là le péché. Peut-être ce n'est pas une question même de moralité. Ça peut être quelqu'un qui aime sa femme, qui traite bien ses enfants, qui travaille comme il faut, mais il commence à dévier de l'Évangile. Alors il faut que cela soit adressé et apporté devant l'Assemblée, surtout s'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, notez bien Matthieu 18 et verset 17, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Cela veut dire la raison pour laquelle il ne se repent pas, c'est parce qu'il n'est pas vraiment converti. Ça, c'est dur pour certains d'imaginer qu'ils ont un ancien ou ils ont un dirigeant qui n'est pas converti. Mais je dois dire, c'est le cas dans la plupart d'assemblées à travers le monde aujourd'hui. Je constate cela parce que quand je m'approche de ces responsables et dirigeants, et je commence à leur parler de l'évangile que Dieu, par son esprit, m'a révélé. Alors, je constate qu'ils se fâchent et ils refusent d'accepter ce message. Ils préfèrent garder leur position et recevoir leur soutien, rester dans ces positions, même s'ils ne prêchent pas l'évangile. Alors, dans ce cas-là, je dois les abandonner et aller ailleurs. Il n'y a pas de fraternité avec de tels prédicateurs. Et ce qui démontre l'aveuglement même des assemblées et de dire que la plupart des assemblées sont aussi, les membres sont aveugles. Ils n'ont jamais reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est parce qu'ils acceptent que ces hommes-là continuent à les diriger. Alors, on ne peut rien faire là. Seulement, c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés dans leur religion. Alors, il y en a qui pêchent de cette manière. Quand on les voit, on les observe, ils sont des hommes qui ont une certaine moralité dans la communauté, mais ils sont des ennemis de la croix parce qu'ils ne prêchent pas le véritable évangile. Ceux-là doivent être repris devant tous. Alors c'est pourquoi Paul dit à Timothée, je te conjure devant Dieu. 1 Timothée 5, le verset 21. Voilà une expression solennelle. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est une manière de dire, je te conjure devant Dieu en Jésus-Christ et devant les anges élus. Il suffit de savoir que les anges élus sont ceux que Dieu préserve, qui ne sont pas tombés avec les autres et qui sont nuit et jour dans sa présence et qui ne cessent de crier, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Il dit d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Il ne faut pas dire, oh oui, mais on sait que celui-là, ceci, celui-là, il est un peu différent, donc on doit faire attention. Non, qui que ce soit, s'il pêche, il doit être repris. Et surtout, si il s'agit d'une déviation en ce qui concerne la prédication de l'Évangile. Il faut dire, à travers les années, depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Seigneur m'a révélé le véritable Évangile, je ne dois pas favoriser certains dirigeants ou prédicateurs qui ne prêchent pas l'Évangile pour dire non, mais de toutes les façons, ce sont des gens que Dieu a placés où ils sont. Non. S'il ne prêche pas l'évangile, il n'y a pas de fraternité. Et je dois dire, c'est pourquoi je marche seul aujourd'hui. Il y a très peu à travers le monde avec qui j'ai une communion fraternelle. C'est à cause de l'évangile. Il y en a toujours qui sont prêts à compromettre pour dire, oui, mais Ken, c'est pas tout le monde qui va voir l'évangile de la manière que tu vois. Alors, il faut être un peu plus souple pour avoir un peu plus de fraternité. Non, il n'y a pas de question à compromettre ce message pour qui que ce soit. Et c'est pourquoi Paul dit, je te conjure devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Et devant Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le seul que Dieu a établi comme la justice de son peuple. C'est par son sang versé. Quand on parle du sang versé, c'est précieux à Dieu. Alors comment est-ce que je vais compromettre maintenant ce sang pour favoriser qui que ce soit? Si nous tenons devant Dieu un jour, la seule question serait si je suis en Christ ou non. Ce n'est pas mon comportement, ce n'est pas ma manière de vivre, mais c'est Christ et ce qu'il a accompli pour des pécheurs comme moi. Alors pour cela, je ne dois pas compromettre, je dois observer, comme il dit là, ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ne pas hésiter sans prévention. Ne pas regarder à certains pour dire, bon, il faut peut-être pas être si dur pour ceux-là parce que ça fait longtemps que nous avons un certain lien. Non, c'est Christ qui importe et non pas les hommes. Alors pour cela, dans le verset 22, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Je sais qu'il y a des besoins. Moi-même, quand je regarde le travail que j'ai à faire, j'ai toujours besoin des hommes. De se lever et prendre des responsabilités pour m'aider dans le travail. Mais je ne dois pas, avec précipitation, sanctionner qui que ce soit. C'est ça le sens de mot imposer les mains. Ce n'est pas une cérémonie en tant que telle, mais c'est une manière de parler, pour dire, de mettre des hommes dans ces positions de responsabilité avec précipitation, pour ne pas participer au péché d'autrui. Cela veut dire, si on ne fait pas attention, on place un homme dans une certaine responsabilité, pourtant, ils ne sont pas clairs sur l'Évangile, ou peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations que l'Assemblée, que le soin de l'Assemblée. Donc, cela ne peut pas servir la cause du Christ. Alors, il ne faut pas reconnaître qui que ce soit, participer au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Cela veut dire, dans ce sens, de rester attaché à l'Évangile seul. C'est ça qui détermine avec qui je marche dans cette vie. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et d'accord sur l'Évangile, d'accord sur ce que cette parole enseigne, d'accord sur cette parole étant la seule autorité que Dieu nous donne pour notre vie et pour la foi. Il y en a qui portent la Bible, ils ont cette Bible dans leurs mains, mais ils ne croient pas au Dieu de la Bible. Alors c'est important de faire attention. Et puis, en ce qui concerne le soin personnel, parce que il faut dire que œuvrer dans le ministère, c'est un travail qui peut porter beaucoup de soucis, de stress, et c'était peut-être le cas avec Timothée. Alors, Paul lui donne un peu de conseils personnels ici, de ne pas continuer à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Cela veut dire qu'il faut que chacun de nous qui dirige dans l'Assemblée, on s'occupe du soin de nos corps pour que nous soyons toujours disposés à faire le travail qu'il nous faut. Alors, nous voyons ici que Paul dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Boire le vin n'est pas le péché. Il y en a qui ont peut-être cette position, il faut jamais toucher le vin. Mais le problème n'est pas avec le vin. Le problème, c'est dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un est soûlard, c'est parce qu'il est attaché à ce vin. Voilà le problème. Et c'est parce que nous sommes tous idolâtres. Pour un, ça peut être le vin. Pour l'autre, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ça peut être la popularité. On ne sait jamais à quoi nous sommes attachés. De toutes les façons, nous avons tous en nous-mêmes cette idolâtrie de s'attacher à quelque chose que de s'attacher à Christ. Mais prendre un peu de vin avec un manger, surtout dans des régions où l'eau n'est pas pure, et on sait ça, qu'il y a des endroits dans le monde où si tu bois de l'eau, ça porte toutes sortes de maladies, parce que c'est dans l'eau. Alors dans ce cas-là, faire tout pour garder le corps en bonne santé, c'est là le sens qu'il donne ici à Timothée. Et s'il s'agit de prendre un peu de vin, dans ce cas-là, c'est quand même un médicament. Pour traiter et soigner, on sait ça. Qu'il y a, dans le vrai vin, il y a des éléments qui sont bien pour la santé, bien pour la circulation. Alors, il dit, mais de faire usage d'un peu de vin. Pour moi, je peux prendre le vin de temps en temps. Ce n'est pas tous les jours, mais si quelqu'un m'offre un verre de vin, je peux bien boire avec eux, mais je ne vais pas me saouler, puisque je comprends que je ne dois pas être attaché à quoi que ce soit. Et par la grâce de Dieu, je m'abstiens, surtout quand je suis avec quelqu'un que je sais a des problèmes avec la boisson. Il y en a beaucoup comme ça. Et dans ce cas-là, je ne veux pas les encourager à continuer sur cette voie d'être saoulé par le vin. Alors, je m'abstiens. Mais de toutes les façons, dans le verset 24, 1 Timothée 5, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. C'est tellement évident qu'il n'y a pas de question. Ouais. On sait, on n'a pas besoin de réunir qui que ce soit parce que c'est évident. Mais c'est écrit, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Alors c'est avec le temps que c'est révélé, et puis maintenant on apprend que, ouais, ça a été un péché pendant longtemps, mais c'est seulement maintenant que c'est découvert. Mais de toute la façon, c'est Dieu qui agit dans chaque cas. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Je me rends compte de. Enfin, on sait le cas de Pierre, qui a renié le Seigneur, quoi qu'il disait qu'il n'allait pas le faire, et c'est évident. Tout le monde. On lit ça dans la Bible, on voit. Mais dans le cas de Judas Iscariote, il était toujours un rebelle, il était un homme inconverti. Même Christ a dit qu'il a choisi 12, mais un d'entre eux était le fils de perdition. Mais je dois dire que jusqu'au moment où Christ lui a dit d'aller faire ce qu'il allait faire, et c'était pour trahir Christ à la veille de sa mort, les disciples qui étaient autour de la table avec Christ ne se rendaient pas compte que Judas était celui-là qui devait trahir Christ. Tel était son comportement. Pendant 3 ans et demi, il a caché ses vraies intentions. Mais quand le moment est venu, c'est devenu évident. C'est de celui-là que ça parle ici dans le verset 24, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Et puis maintenant, tout le monde est étonné. Ah, c'était Judas. Je sais que les films aiment présenter Judas Iscariote comme un homme qui avait un aspect criminel. On le voit, on dit, oui, regarde-le, il va trahir Christ, mais ce n'était pas le cas. Personne ne soupçonnait. Il faut savoir qu'il était le trésor, le trésorier de ce groupe de disciples. Même quand il sortait la nuit, la veille, les autres pensaient qu'il allait donner des aumônes aux pauvres, puisque c'était la Pâque. Mais tel n'était pas le cas. Christ savait tout le long. Il savait en le choisissant qu'il était choisi pour être celui qui devait le trahir. Mais il faut savoir que Judas est sorti avec les autres pour prêcher et même accomplir des miracles. Personne ne soupçonnait, mais c'était au moment voulu par Dieu que c'était dévoilé maintenant qu'il était en fait un fils de perdition. Tel est le cas. Alors, ça va être comme ça. Il se peut que nous ayons des prédicateurs, des anciens, des diacres, des dirigeants dans l'assemblée qui sont inconvertis et qui ne se découvrent qu'avec le temps. Mais tout se passe selon la volonté de Dieu. Alors, le verset 25, le dernier de ce chapitre que nous étudions, 1 Timothée 5, 25, de même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Alors, les bonnes œuvres, de quoi il s'agit? C'est le fruit de la grâce de Dieu. Tu sais, un fruit ne se produit pas. Le fruit est produit par une semence. Donc le fruit ne peut pas se glorifier d'être quelque chose. Non, c'est le fruit, c'est le produit d'une semence. Alors la semence, c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et tout ce que la Bible appelle une bonne œuvre, ce n'est pas ce que nous produisons, parce que nous n'avons pas de bonne œuvre, mais c'est le fruit de l'œuvre de Christ à notre égard, tout d'abord, à la croix, son sang versé et sa justice attribuée ou bien imputée à notre compte, ce qui nous rend saints devant Dieu. Et puis, c'est le produit, le fruit de l'esprit de la grâce de Dieu en nous, qui transforme notre cœur, la nature pécheresse n'est jamais transformée. Elle est ce qu'elle est, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de la grâce qui dirige maintenant ce cœur rebelle à se soumettre à Christ et à aimer Christ et à aimer ceux pour qui Christ a versé son sang. Et alors, c'est ça qu'on appelle une bonne œuvre. C'est parce que c'est l'œuvre de Christ qu'on appelle ça une bonne œuvre et non pas quelque chose en nous. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser chacun qui veut ajouter une parole, ajouter maintenant, si le Seigneur à travers mon enseignement, a donné quelques pensées dans votre cœur, vous pouvez maintenant partager cela.
Non, merci, le pasteur.
Oui, c'est bien. C'est bien de d'abord remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous enseigne. La parole est claire, n'est-ce pas? Ce n'est pas. Si la confusion, c'est l'homme qui rend la confusion, sinon la parole est claire. On prend ça verset par verset, ça traite tout. Oui, allô? Très bien. Vas-y, Koulibaly. Très bien.
Vraiment, je suis très content de ce message-là et j'ai vraiment quelque chose aussi à ajouter.
Bien.
Vous saviez que dans la vie même, alors c'est notre participation individuelle. Alors, des fois, si on fait une rétrospective même sur notre vie, alors nous voyons que l'homme réellement n'est jamais sans la grâce de Dieu. Personnellement, j'ai eu à faire une étude sur le cœur humain, sur l'homme, sa méchanceté, sa nudité, et j'ai fait ressortir de réellement deux grands points. Quand j'ai fait ces études-là sur le cœur de l'homme, j'ai vu que j'avais besoin de deux choses. D'abord, de louer Dieu. Et la deuxième chose, c'est la repentance, c'est de me repentir. Parce que quand nous voyons tout ce que nous est arrivé, Dieu, ce que Dieu a fait dans notre vie, alors nous voyons que sans la grâce de Dieu, alors vraiment on ne peut pas réellement avoir la gloire. Je vous dis qu'un jour, mon épouse est rentrée dans ma maison. Il m'a trouvé, je suis couché sur le ventre. J'ai le front à terre. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que j'ai vu dans ma vie, j'ai fait le film de ma vie, j'ai vu que tellement que j'étais mauvais, même à toi-même, dans la société, le mal que j'ai fait, j'étais en train de voir tout cela. Et j'ai vu que tellement je suis éloigné de Dieu. Voilà pourquoi j'ai le front à terre, parce que je vais retourner un jour devant ce Dieu-là. Alors donc, si je vois tous ces faits, je vois que le Seigneur est réellement miséricordieux et il est grand. Et voilà pourquoi j'ai le front à terre. C'est pour vous dire que, avant de passer sous le tribunal même de l'Église, l'homme a besoin alors de sonder, de fouiller, de voir son intériorité et de se repentir sincèrement du péché.
Amen.
Parce que ben, on a des nuisances quand on a un péché dans l'âme et qu'on ne se repent pas. Alors, donc, il faut que nous passions d'abord devant le tribunal de notre conscience, le tribunal du Saint-Esprit de Dieu, vraiment, qui va nous donner, nous apprendre l'humilité. Bon, en ce qui concerne réellement l'évangile de la grâce, vous saviez qu'on ne peut pas prêcher l'évangile de la grâce sans avoir des ennemis. Partout où on est, on va. Moi, j'ai eu des vitres au Mali, hein, avec cet évangile-là, puisque cela se comprend et cela ne doit pas nous décourager. Puisque l'homme a besoin du naturel, l'homme a besoin de l'attention charnelle, de l'épanouissement sur la terre ici, d'être délivré de sa maladie. Or, nous devons nous s'en soucier surtout de notre âme. L'évangile de la grâce touche l'âme même de l'être. Mais ce n'est pas ce que l'homme, le monde voit. Voilà pourquoi quelqu'un qui prêche la grâce, alors pour et quelqu'un qui vit dans le monde, ça dit, nous trouvons comme, hein, nous sommes déroutés. Alors, tout cela, c'est quoi? Alors, concernant aussi l'alcool, le vin, réellement, ben, moi, je n'ai jamais pris de vin, puisque j'ai été déjà esclave réellement de quelque chose, alors que c'était une emprise, c'était devenu pour moi une emprise, et cela a envoyé beaucoup de désordre réellement dans ma vie. Voilà pourquoi je n'ai pas, je suis impulsif. Si je commence quelque chose, je ne peux pas terminer. Donc, je préfère vraiment m'abstenir complètement de cela.
Ouais.
Alors, voilà pourquoi je veux vraiment vous dire que nous avons besoin même, d'abord, avant d'être jugé par l'Église, avant d'être réuni, il faut vraiment, ce que tu fais entre toi et Dieu, il faut vraiment que tu sentes ton cœur, se repentir et voir la grâce de Dieu qui s'épanouit réellement, qui nous donne le vrai épanouissement. Sinon, toute autre voie, c'est infernal, c'est charnel et c'est vraiment périlleuse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Oui, c'est ça
Amen.
l'évidence de la grâce de Dieu dans le cœur, que lorsque, même quand les hommes veulent nous doigter et mentionner des fautes en nous, ce sont des choses que nous savons déjà parce que déjà l'esprit de la grâce de Dieu nous les a montrées. Et dans ces cas-là, nous serons comme celui-là que lorsqu'on l'approche, pour le reprendre, il écoute. Combien de fois on peut dire à quelqu'un, oui, mon frère, priez pour moi, parce que avant même que tu ne mentionnes cela à moi, déjà l'Esprit de Dieu m'a montré cela comme étant un péché et j'ai déjà confessé ça au Seigneur. Donc, c'est ça l'Esprit qu'on trouve dans ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Quand les gens repoussent, ces reproches, c'est là qu'on peut commencer à se demander s'ils sont vraiment convertis ou non.
Et puis, pasteur,
Oui.
moi j'aimerais ajouter quelque chose. Vraiment, seulement, je remercie le Seigneur pour cette étude qu'on fait. Et ça nous rapporte véritablement de la parole de Dieu, de s'instruire toujours et de croître dans la grâce. Parce que moi, je pense que quand tout ce que l'apôtre Paul, les instructions que Paul a données à Timothée, évidemment, c'est des choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. On est toujours des pécheurs. Moi-même, quand je lisais tout ça, cette étude aujourd'hui, je vois, quand je me lis à ça, je vois que je ne suis pas parfait. Quand bien même que je suis en Christ aujourd'hui, je vois que ces choses peuvent arriver. Nous, qui sommes dans un pays vraiment développé, où il y a beaucoup de tentations, et ces choses-là, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas les voir. Nous qui ne sommes pas dans cette assemblée, qui sont loin d'un lieu de culte où l'évangile est fidèlement prêché, mais à travers cette technologie que le Seigneur a mis en place, que nous retrouvions pour parler, vraiment c'est édifiant et c'est véritablement encourageant. Moi, je pense que c'est une bénédiction. Et évidemment, pour parler dans ton sens, concernant le verset, par exemple, qui m'a marqué, comme ça, le verset 21, où Paul insiste pour dire que je te conjure devant Dieu, devant Christ et devant les anges, je pense. Et il y a quelqu'un qui d'observer ces règles sans préjugés et de ne faire du favoritisme. Alors, ça me rappelle quelqu'un que j'ai vu sur Facebook. Un jeune pasteur, c'est dit pasteur, il était appelé à célébrer un mariage. Et ses propos qui m'ont scandalisé, c'est le fait qu'il dit devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant Jésus-Christ et devant Satan.
Ah bon?
Ouais, les mots sortent facilement.
Ah ouais.
Et j'ai été scandalisé par ça et j'ai répliqué tout de suite parce que je ne pouvais pas laisser passer. Et là où on se rend compte que là où Christ est célébré, où dans toute sa gloire, où l'Église de Dieu est réunie, Satan n'a pas sa place. Hein? Satan n'a pas sa place là. Donc je pense que quand Paul insiste pour dire d'abord devant Dieu et devant Jésus-Christ, et en troisième lieu devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne faire de favoritisme. Or, dans la religion, C'est vrai, on le voit dans la région, le premier bilan dans la secte que j'étais à l'époque. Il y avait certaines distinctions. Ceux-là, c'est les financiers. Ceux-là, ils sont comme la figure du. Ils sont aussi chers. Donc, ceux-là, avant, nous, la femme de toucher, c'est le maman d'église. Voilà les propos qu'on avait dit. Alors, aujourd'hui, là, c'est le papa de l'église. Alors, quand on regarde la Bible, je constate que ces propos que les gens ont tenus dans la religion, véritablement scandalisant et loin de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a marqué dans ce passage. Parce que on n'est pas à l'abri, quand bien même que on est véritablement attaché à l'évangile, on n'est pas à l'abri du péché. C'est pour cela que on demande toujours la protection de l'Éternel, de nous quitter dans ce monde que nous sommes et de se distinguer du monde religieux. Car l'évangile de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ, c'est un évangile qui n'est pas connu par beaucoup d'hommes. Donc, le monde ne connaît pas, même le monde religieux ne sait pas ce que c'est. Par exemple, le verset 23, pardon, verset 22, où il dit encore, Paul dit encore, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rend complice des péchés d'autrui. Toi-même, prends garde, garde-toi pur. Alors, même si je vais il a fallu qu'aujourd'hui, que le pasteur Ken, à travers le Seigneur, puisse vraiment expliquer ce verset-là. Parce que dès que je vais, quand je parle de l'évangile avec les gens, quand on dit de ne pas imposer les mains aux gens, ils disaient, oui, mais vous ne voyez pas, c'est biblique. Vous allez dans le verset 22, n'impose pas les mains avec la précipitation. Ça veut dire que tu peux imposer les mains aux gens pour les guérir, pour les délivrer quand ils sont malades. Voilà la fausse notion qui est répandue dans le monde aujourd'hui.
Ah ouais.
Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on explique, qu'on a expliqué aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous a beaucoup éclairé sur ce passage,
Ouais.
par verset, pour que nous puissions comprendre. Parce que on est ici, moi par exemple, ici en France, c'est difficile. J'ai besoin de prier les uns des autres, parce que Paul a énuméré le cœur de l'homme, que ce soit dans Matthieu 18, verset 15, que ce soit dans Galates 1, Galates 6, verset 1. Effectivement, on est comme ça. Dans la religion, quand quelqu'un est tombé dans le péché, parce qu'eux, ils dressent toute une liste de restrictions et de préceptes. Dès l'instant que tu as enfreint à ces préceptes, ils disent que tu as péché. Et voilà, l'homme coupable, il se rend devant le pasteur. Le pasteur se prend comme un juge. Celui à qui on doit payer, on doit expliquer tout. Et par là, il commence à faire des sanctions selon la chair. Et là, c'est parce que Paul est en train de dire, pour dire que réponds ton frère doucement, dans la grâce de Dieu, et en présence de deux ou trois témoins. Et ces choses sont vraiment encourageantes. Et à l'église, ça manquait à ceux qui étaient responsables après le départ du thème. Quand d'autres frères tombaient dans le péché, personne n'allait vers eux pour les interpeller, les laisser partir comme ça. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Quand on regarde, personne n'a interpellé un ou deux frères pour dire il y a beaucoup de frères qui sont partis, tout ça. Personne ne les a interpellés pour dire ah, on a vu que ce que tu faisais, c'est pas bien. Il ne faut pas marcher comme ça. Non, les gens les ont laissés partir comme ça. Voilà. Donc, véritablement, je remercie le Seigneur pour ça, pour cette étude, et que le pasteur Ken a déjà tout dit. Et je pense que nous devons prier les uns les autres pour que le Seigneur nous garde dans ce monde où il y a beaucoup d'hostilité.
Amen.
Merci.
Amen.
Ah,
Ouais.
voilà, mon frère a m'aider, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous avez déjà compris. Nous devons prier les uns pour les autres. C'est vraiment important. C'est pour cela, si on met tous les membres de l'équipe Skype là, je prends des jours pour prier tous les jours pour nous parler. Finalement, j'ai eu à comprendre où est l'humilité même dans ça. Est-ce que ce n'est pas un ordre que nous sommes en train de donner à Dieu? Alors la grâce de Dieu exclut ces choses-là. Pour cela, vraiment, ce que vous avez dit, c'est vraiment important. Alors prions vraiment surtout les uns pour les autres. Je vous dis que des fois, quand on voit les bienfaits même de Dieu, ce que Dieu nous a fait dans notre vie, des fois, On peut même passer une journée, franchement, je vous dis, à louer le Seigneur pour cette grâce-là. Parce qu'on devait mourir même dans d'autres points, dans d'autres péchés, on devait rester. Mais Dieu nous a aidés jusqu'à ce que nous puissions connaître tout ça. Vraiment, toujours grâce à le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen,
Amen.
amen. Oui,
Amen.
nous devons toujours nous rappeler que lorsque nous adressons la parole aux autres, c'est en tant que pécheurs nous-mêmes, sauvés par la grâce de
C'est ça.
Dieu. Et un dirigeant qui dirige bien, un prédicateur qui prêche selon l'Évangile, il est toujours conscient de son propre péché. Alors lorsque nous lisons, par exemple, dans 1 Jean chapitre 2, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. On est toujours conscient que cela nous adresse d'abord avant de porter cette parole aux autres. Je remercie le Seigneur que j'ai un avocat en Jésus-Christ auprès du Père, qui est le juste. Je ne suis pas le juste et je ne prêche pas de cette manière, comme si quand les gens m'approchent avec leur fardeau, je suis au-dessus d'eux. Non, je suis parmi eux en tant que pécheur comme eux et nous devons prier les uns pour les autres tout en portant les regards sur Christ et Christ seul, son œuvre accomplie pour des pécheurs. Et je suis convaincu de la manière que nous sommes en train d'étudier la parole maintenant, c'est de cette manière qu'il faut prêcher la parole. C'est verset par verset, ligne par ligne. Toujours garder les choses dans le contexte. Comme le frère vient de dire, les gens sont aujourd'hui chauds pour imposer les mains pour n'importe quelle chose. C'est comme ça parce qu'ils se voient comme étant eux-mêmes ayant une certaine autorité sur les hommes. Mais nous n'avons aucune autorité, autorisation à part ce que Christ lui-même donne. Nous sommes les serviteurs de Christ. Alors, comme c'est écrit dans Ésaïe 28 et le verset 10 et 13, je peux nous encourager toujours dans cette voie où c'est écrit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et puis dans le verset 13, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Qui? Les ennemis. Si quelqu'un s'oppose à nous, que ça soit à cause de l'Évangile et non pas à cause d'une offense que nous-mêmes nous portons, qui n'est pas à cause de l'Évangile, mais à cause d'un comportement quelconque ou bien un péché qui empêche d'autres à écouter l'Évangile. Alors pour cela, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Alors, je vais terminer par la prière et puis que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler, même à travers la technologie. Merci de nous avoir donné cette occasion, une fois encore, d'ouvrir la parole et de lire, d'écouter, de commenter. Mon désir, c'est que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, retentisse à ta gloire et à la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour mes frères que tu as suscités et placés chacun dans son lieu où il se trouve, et cela pour rendre témoignage de Christ et de ta grâce envers des pécheurs comme nous. Alors que tu nous donnes toujours cette perspective de regarder vers Christ et non pas nous-mêmes, et de reconnaître que nous vivons uniquement par ta grâce et par ta volonté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et pour cela, nous te rendons toute la gloire dans le Saint-Nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.